comprendre les mouvements au Kasai oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage qui fait le point sur l'encadrement des Congolais vivant à l'étranger. Rappelons que 21 étudiants ressortissants de la RDC sont arrêtés en Inde depuis le week-end dernier. Ils sont accusés par la police d'avoir profané leur dieu et violé des femmes. Et de l'autre côté, plusieurs milliers de Congolais accusés de séjour illégal sont souvent expulsés de l'Angola des fois avec brutalité et violence. Que proposez-vous pour assurer un meilleur encadrement des Congolais vivants à l'étranger? Et c'est la question au centre de notre échange de séjour. Nous en parlons dans ce studio avec Maître Ntunda Yakasende, vice-ministre des Affaires étrangères. 081-890-43-39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission, coordonnée par J.R. Lungembo, Titim Puto assure la réalisation et Guy Manzango la mise en onde. Pierrot et la Meiji vous la présentent sous la supervision de Nicole Ngaka, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, bonjour.
Bonjour mon ami.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Okapi. Quelle est la situation aujourd'hui? Parce que nous partons de notre échange part, bien sûr, de l'arrestation de 21 étudiants congolais en Inde. Quelles sont les informations qu'on possède en ce moment?
Oui, une très très bonne question. Puisque nos étudiants étaient arrêtés depuis le week-end passé, comme vous l'avez si bien dit. Mais hier, je suis passé sur l'antenne de notre télévision nationale pour dire qu'il n'était plus qu'une question d'heure. Je ne m'exprimais plus en termes de jours, mais plutôt en termes d'heure. Et effectivement, au moment où je vous parle, l'ordre de libération de nos enfants est déjà donné. Juridiquement, les étudiants congolais arrêtés, incarcérés en Inde, sont déjà considérés comme libérés. Et l'équipe de la police indienne ainsi que de certains agents du parquet qui sont accompagnés de notre ambassadeur Balumwene en Inde sont en route à partir de la ville de Jalandhar jusqu'au lieu de la détention, donc c'est à peu près 100 kilomètres. Ils sont en route pour aller récupérer les enfants.
C'est-à-dire que dans les heures qui suivent, ils seront effectivement libres.
Oui.
Dans les faits.
Ils sont déjà libérés. Ce n'est plus les heures. Hier, je m'exprimais en termes d'heures. Maintenant, c'est une question de minutes, tout simplement pour que le mandat de libération puisse arriver à la place de détention pour récupérer les enfants. Donc, nos enfants ont été libérés depuis ce matin. C'est ce que j'avais annoncé depuis hier. Donc, l'ambassadeur qui avait reçu instruction de ne pas rentrer à New Delhi, de rester dans la ville de Jalandhar, à 600 km de New Delhi, jusqu'à la libération des enfants. C'est l'ordre qui lui avait été intimé. Et effectivement, il a le mandat de libération entre ses mains. Il est en train de se diriger vers la prison pour aller récupérer les enfants. Il doit donc récupérer les enfants et il doit certifier au ministère des Affaires étrangères pour que nous fassions rapport à la haute hiérarchie du pays pour dire que nos enfants sont en bonne santé.
Et alors, officiellement, qu'est-ce qui a été reproché à ces étudiants?
Bon, il y a eu des accusations diverses. notamment, comme vous l'avez dit, la soi-disante profanation des lieux saints, le viol des femmes ou le vol avec effraction. Mais je voudrais vous dire tout de suite que tout cela est faux. Il n'y a rien de tout cela. Les enfants ont été arrêtés dans une circonstance qui ne pouvait aucunement justifier une quelconque infraction. Au contraire, on a voulu couvrir plus tard cette arrestation par ce genre d'accusation. Tout cela, je balaye ça du revers de la main, c'est faux. Et pour preuve, c'est que je viens d'obtenir également des assurances de la part de la police indienne qu'il n'y aura aucune poursuite qui sera faite à charge de nos enfants. Donc, non seulement ils seront libérés, mais le dossier devra être clôturé parce qu'il n'y a aucune infraction à imputer à nos enfants.
Voilà, merci pour cette précision. C'est ce qui nous permet d'entrer dans cet échange avec les auditeurs. Comme on a dit, nous sommes partis de cette situation en Inde pour qu'on fasse le point sur la situation des Congolais qui vivent à l'étranger et surtout des pistes et des solutions pour leur meilleur encadrement. Alors, comme on va partir de l'Inde maintenant pour essayer de généraliser le débat, est-ce qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, on peut avoir une idée, même un chiffre approximatif de combien de Congolais vivent à l'étranger? On sait bien sûr qu'il y en a peut-être qui vivent irrégulièrement dans d'autres pays, mais est-ce qu'on peut avoir une idée globale aujourd'hui?
Bon, je n'ai pas les statistiques avec moi. Disons, je peux avoir les chiffres, mais excusez-moi, je ne peux pas me hasarder à donner des chiffres sans précision. Il a fallu que je puisse avoir mes documents. Mais il y a des milliers de Congolais qui vivent à l'étranger. Les Congolais sont partout. Aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Asie même, parce que moi-même je reviens d'une mission officielle où j'étais à Tokyo, au Japon. Là-bas, il y a des Congolais. En Afrique, dans certains pays, il y a également des Congolais. Cela ne signifie pas que les Congolais ont besoin nécessairement de se trouver à l'étranger, puisque la preuve c'est que même chez nous ici, eh bien, il y a beaucoup d'étrangers qui vivent également chez nous. Donc ça c'est la règle des jeux. Les Congolais peuvent se retrouver à l'étranger, tout comme chez nous également, nous recevons des milliers, si pas des millions d'étrangers qui vivent paisiblement en République démocratique du Congo.
Et sur le plan formel, par exemple, quand un pays hôte a des reproches envers les ressortissants de la RDC, ça peut être aussi le cas quand la RDC a des reproches pour un ressortissant étranger. Quels sont souvent, sur le plan formel, des procédures? Est-ce qu'on saisit le ministère pour dire voilà ce que vos ressortissants ont fait ici, que ce soit dans n'importe quel pays, et dès là vous prenez des mesures? Comment, sur le plan diplomatique, on se comporte quand il s'agit des actes, par exemple des reproches adressés aux Congolais qui vivent dans un pays quelque part?
Bon, cela est réciproque. Mais sinon, la règle consiste à ce qu'on saisisse la mission diplomatique congolaise à l'endroit concerné. Donc, si le pays hôte a des, disons, de récriminations, de reproches à faire aux citoyens congolais qui vivent dans ce pays, eh bien, par note verbale, le pays informe notre mission diplomatique pour dire que voilà, il y a un dossier à charge de tel Congolais ou de tel groupe de Congolais, et ce pays précise également les mesures qu'il envisage de faire. Donc ça, c'est la règle. Et la mission diplomatique va également nous saisir ici à Kinshasa, au ministère des Affaires étrangères, et nous allons essayer d'entrer en contact avec ce pays pour voir si on ne devrait pas arranger les problèmes qui sont mis en exergue. Donc ça, c'est ça la procédure. Mais généralement, je crois que c'est peut-être ça les dessous de votre pensée, c'est qu'il y a des actions qui sont faites par certains gouvernements.
D'une manière unilatérale, disons.
Bon, de manière unilatérale, et sans que la mission diplomatique dans le pays ne soit saisie, ne soit même pas informée, et que parfois il y a des expulsions qui sont faites sans justement que l'information n'ait été au préalable portée à la mission diplomatique, laquelle est surprise de savoir qu'il y a eu des ressortissants qui ont été expulsés. Cela, c'est une procédure irrégulière. Ça ne convient pas.
Avant d'écouter les auditeurs, une autre question, c'est par rapport aux relations entre les ressortissants congolais dans le pays d'accueil avec nos missions diplomatiques. On sait, il y a plus de deux ans, nous avions fait une émission Parole aux auditeurs, bien sûr, avec les Congolais qui vivent à l'étranger. Nombreux disaient qu'ils étaient en difficulté, compte tenu, bien sûr, des moyens que nos missions diplomatiques avaient, des fois des moyens limités, des autres même avec beaucoup de difficultés de fonctionnement. Aujourd'hui, où en sommes-nous aujourd'hui avec les réformes qui ont été entreprises pour rendre plus efficaces nos missions diplomatiques?
Bon, aujourd'hui, je crois que les choses sont revenues dans les meilleures conditions. Mm-hmm. D'abord, il y a des missions diplomatiques à l'époque qui n'avaient pas de chancellerie digne de ce nom.
Effectivement.
Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes en train d'acquérir sur fonds propres de l'État congolais des patrimoines immobiliers. Évidemment, c'est progressif, on ne peut pas le faire en un jour. Donc de propriété à la République, là, progressivement, là où il le faut. Et donc, nos missions diplomatiques sont en train de s'installer comme il faut. Mm-hmm. Deuxièmement, nous sommes en train de mettre à leur disposition des outils de travail, notamment les véhicules et les autres matériels qui devraient leur permettre de travailler normalement. Et aussi, il faut le dire, il faut le souligner même, régulièrement maintenant, chaque mois, ils reçoivent des frais de fonctionnement assez consistants qui permettent à toutes les missions diplomatiques de se déployer sur l'ensemble de leur juridiction et d'être en mesure donc d'être en contact avec les Congolais qui vivent sur le sol de leur juridiction. Donc, ils sont aujourd'hui suffisamment pourvus de moyens pour leur permettre de travailler normalement, de fonctionner et d'assurer les suivis de tous les Congolais qui sont à l'étranger. Sur le plan structurel, au niveau de la centrale, je ne sais pas si vous le savez, il y a une direction maintenant qui a été érigée, la direction des Congolais à l'étranger. Donc il y a une structure spécifique aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères chargée uniquement du suivi et de la gestion des Congolais à l'étranger partout où ils se trouvent.
Mais oui, en fait, on revient sur ça parce que nous avions eu, je crois, bien deux à trois émissions et on a senti à un certain moment que la structure elle-même ici à Kinshasa, et des fois on sentait qu'elle était en difficulté pour la gestion, comme vous dites qu'on a amélioré. Je crois maintenant peut-être que la structure a des moyens efficaces qui lui permettent aujourd'hui de mener bien sa politique d'encadrement de ces Congolais.
La structure a des moyens aujourd'hui et d'ailleurs au moment où nous parlons, les directeurs de la direction des Congolais à l'étranger n'est pas à Kinshasa. Il est à l'étranger en mission et il doit visiter plusieurs juridictions pour se rendre compte de l'état de vie de nos Congolais à l'étranger. Et aussi, il faut s'en féliciter, nous avons plusieurs projets, plusieurs programmes que nous sommes en train d'élaborer. Certains sont en cours d'exécution avec certaines institutions internationales telles que la BAD. Qui nous aide, qui nous accompagne dans certains programmes pour accompagner justement la gestion des Congolais là où ils sont.
Voilà, Adrien est à Kananga, Géry est dans le Bandundu et Marcel est à Paris. On va vous accorder la parole. Je rappelle notre numéro pour intervenir en direct, 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Adrien, vous êtes à Kananga au Kasaï occidental, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Perrault.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez pour assurer un meilleur encadrement des Congolais qui vivent à l'étranger?
Merci pour cette émission et merci pour la parole. Je voulais intervenir sur ce dossier. Je crois que c'est un dossier qui dérange beaucoup notre conscience. Moi qui vous parle, je suis victime de refoulement en 2004 en Angola. Qu'est-ce que j'ai constaté chez nous? Notre gouvernement est plus pour la répression, mais il ne sait pas vraiment protéger sa population. Lorsque je compare la fois passée, on a parlé je crois, au Sénégal, il y avait 6 Français détenus là-bas, et j'ai senti le gouvernement français se mobiliser comme un seul homme pour demander la libération. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? Bien que le ministre parle de tout ce qu'on a placé comme, je sais pas, méthode autre, mais nos frères sont en train de souffrir lors des réfoulements. Il faut voir comment les gens meurent. Il faut voir comment les gens sont pillés. Et qu'est-ce qui m'étonne? Notre gouvernement ne dit absolument rien. Bien que les choses se passent comme ça, autrefois, là, on a connu les gens qui venaient avec des stylos et des papiers pour prendre tellement de déclarations. Et c'était fini comme ça. Moi, je crois que notre gouvernement va améliorer la sociale de la population. Si nous sommes, en fait, nous vivons bien ici au Congo, ça serait un peu difficile d'aller peut-être en Angola. Vous savez, souvent, on nous avance des raisons pour dire non, nous venons de la guerre longue. Mais l'Angola aussi a connu la guerre. 27 ans de guerre. Mais aujourd'hui, l'Angola est bien organisée. À tel point qu'un Angolais ne peut pas quitter là-bas pour venir ici au Congo. Et d'ailleurs, autrefois, il y avait les Angolais qui étaient répatriés à l'Angola dans de bonnes conditions. Mais pourquoi pas nos Congolais aussi peuvent aussi quitter l'Angola pour venir ici dans de bonnes conditions. Là, je sens que notre État n'a pas la volonté de protéger sa population. L'État est là pour la répression, mais n'est pas là pour la protection.
Merci Adrien. Vous êtes vous-même victime de l'expulsion de l'Angola en 2004. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas vraiment souvent une réaction énergique du côté du gouvernement pour protester quand il s'agit de l'expulsion des Congolais, le cas par exemple de l'Angola. Mais vous souhaitez qu'on puisse améliorer le social de la population, ce qui fait que les gens ne pourront pas aller en Angola. Si le social est amélioré de l'autre côté, les gens souhaiteront vivre au Congo qui est allé en Angola pour travailler. Merci beaucoup Adrien. Vous êtes à Kananga. Géry, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Géry. Géry, vous êtes avec nous. Bonjour. On a perdu Géry de Bandundouville. Peut-être il pourra rappeler. Marcel, vous nous appelez des Paris en France. Bonjour Marcel.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Et nous...
moi je voudrais...
Oui, allez-y, nous disons qu'on dégage les pistes des solutions pour assurer un meilleur encadrement aux Congolais qui vivent à l'étranger. Vous êtes à Paris, qu'est-ce que vous proposez, Marcel?
Oui, je crois que je vais un peu commencer par là où le ministre a commencé, hein, en donnant le nombre de Congolais de l'étranger. On est plus ou moins 10 millions de Congolais à l'étranger. Hein, je lui dis parce que je travaille avec les Congolais de l'étranger. Je suis dans une grande association qui s'occupe des immigrés. Hein, c'est Sahel. Donc, ça fait plus de 5 ans que je suis référent pour la France dans cette association. Et je voudrais aussi lui dire, les Congolais de l'étranger, je crois que le problème, il commence au pays. Ça fait, je suis venu à Kinshasa, j'ai fait 8 mois, j'ai arpenté le riz de Kinshasa, je suis allé à l'Est pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. C'est déjà au pays que ça ne va pas. Même l'administration, c'est un mur pour sa population. Nous devons rapprocher notre administration. Notre administration doit être une administration de proximité parce que et c'est à ce moment que la population va plus se rapprocher de notre administration. Aujourd'hui, le ministre parle de la structure. Je ne sais pas s'ils ne voient pas qu'il y a incompatibilité, parce que les Congolais de l'étranger, ils sont à l'étranger. Il y a des représentations du gouvernement congolais à l'étranger. Il y a des chargés des affaires culturelles à l'étranger. Pourquoi ne pas prendre ces rôles-là de donner aux chargés des affaires culturelles à l'étranger? Il y a eu un moment à Paris, on a listé toutes les associations congolaises de l'étranger. Qu'est-ce qu'on a fait de cette liste? Pourtant, on pouvait, à partir de ces associations de Congolais de l'étranger, atteindre les Congolais de l'étranger. J'avais même soumis un projet à cette structure en 2009 pour que ça soit ces ambassades deviennent des espaces culturels des Congolais de l'étranger. Mmh. Et je vais donner un exemple simple. Le 30 juin, les Camerounais, le jour de l'anniversaire du Cameroun, les Camerounais fêtent. Et qu'est-ce que font les Congolais? Ils organisent au Luxembourg, j'en ai participé à plusieurs fois. Il serait souhaitable qu'aujourd'hui le gouvernement congolais pense une chose, que le Congo n'a plus un problème d'homme. Il n'a plus un problème de la volonté politique. Nous devons aller à la volonté populaire. C'est ce qui nous manque, la volonté populaire. Pourquoi je parle de la volonté populaire? ce que aujourd'hui on devait organiser les Congolais de l'étranger en créant des groupes d'ingénierie. Je parle des groupes d'ingénierie. Chaque Congolais, dans son domaine, il devait apporter quelque chose, organiser ces Congolais par rapport au domaine qu'ils travaillent déjà à l'étranger pour qu'ils amènent ses compétences aujourd'hui au pays. Mmh. Je vais dire une chose. Regarde, le gouvernement congolais signe des contrats. C'est bien. Je vis la Suisse qui veut signer sur les affaires foncières, tout oui. C'est très bien. Mais sauf que il faut qu'il y ait des volets à chaque contrat, des volets de transfert de compétences, quelque chose qui est important. Je travaille avec l'association Culture du Monde, et je suis le président, je suis le président. Et aujourd'hui, je crois que c'est la vision politique même. La vision, elle est là. Les hommes sont là. Mais aujourd'hui, c'est question de rapprocher, de faire une administration de proximité. Mmh. Même merci. Ici, même ici sur place, quand vous allez dans les ambassades, j'y vais toujours, hein, vous trouverez toujours qu'il y a, même pour l'accueil, il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a incompatibilité déjà comportementale. Les gens qui viennent travailler ici, ils ne sont pas rodés. Et nous, on a déjà l'habitude, on va partout où on va, on trouve, il y a, vous faites la paix, et on vous sert, Marcel, oui, voilà. sans beaucoup d'histoires.
Voilà, Marcel, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur notre standard, hein, le sujet il est vraiment intéressant. Je retiens, vous avez proposé d'ailleurs au vice-ministre des Affaires étrangères qu'il serait mieux, au niveau des ambassades de la RDC à travers le monde, de créer des espaces culturels et avoir aussi une conception d'ingénierie, cela veut dire des transferts des compétences, partir des Congolais qui sont installés à l'étranger avec les compétences, pourquoi ne pas les associer dans la signature des différents contrats pour voir comment ils peuvent amener leur expertise de l'extérieur vers le pays et profiter aussi de rapprocher hein, ces différentes associations avec l'administration. On peut retenir en gros ça. Merci beaucoup de ces propositions, Marcel. Vous êtes à Paris. Franck, vous êtes à Vienne. Vous êtes avec nous. Bonjour, Franck.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à son Excellence, le vice-ministre des Affaires étrangères.
Et vous avez suivi les propositions de Marcel qui nous a appelé de Paris. Quel est votre point de vue pour assurer un meilleur encadrement des Congolais qui vivent à l'étranger?
Oui, merci. Je dois d'abord lui dire merci pour la précision, la concision et l'objectivité avec laquelle il s'est exprimé. Nous profitons de l'occasion pour le dire directement à notre vice-ministre qui nous écoute, mais le problème qui se pose maintenant en Inde, ou le problème qui se pose avec le refoulement des compatriotes congolais, c'est un problème d'encadrement des jeunes. Donc, la population congolaise, la nation congolaise, l'État congolais a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour encadrer sa population juvénile. Donc, avec une jeunesse désœuvrée, qui n'a pas de perspective, qui ne se sent pas plus au sérieux chez lui, il y en a qui se débattent pour traverser des frontières nationales, pensant aller trouver mieux ailleurs. Et alors, quand ils arrivent à l'étranger, là aussi, c'est pas encore facile. Il y a les problèmes de papier, il y a tout ce que mon compatriote de Paris venait d'évoquer. Donc, il y a tout un défi là devant nous. Et le problème qui se pose là, c'est il y a des Congolais qui se débattent pour bien s'intégrer. On ne peut même pas généraliser. Je serais vraiment un menteur si je dois dire que tous les Congolais qui sont à l'étranger ont des problèmes d'intégration. Il y en a qui s'intègrent, qui se sont intégrés convenablement. Il y en a qui arrivent avec des objectifs pour bien travailler, pour bien étudier et avoir aussi des qualifications pour aller rentrer. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau de l'attrait. Moi qui vous parle, j'étais à Innsbruck pendant au moins 6 ans. Je voyais des compatriotes ghanéens, des compatriotes ivoiriens, des compatriotes ougandais, des latino-américains, les slaves. Ils étaient à chaque semestre visités par les diplomates de leur pays. Ils arrivaient à l'université, ils se changeaient avec des professeurs, on leur faisait des offres d'emploi, on leur donnait ce goût-là de rentrer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et quand nous attendons, on dit qu'il y a des structures pour encadrer les étrangers d'ici. Nous apprenons seulement à travers vos médias que tel est arrivé, il s'est rencontré avec tel groupe, mais c'est dans des cercles vraiment fermés. Moi, je vous dis, pour le moment, j'interviens de l'Allemagne, il y a des groupes, il y a des gens qui s'organisent pour créer quelque chose, pour encadrer pour offrir aux autres des bases pour mieux s'intégrer, mais au niveau de l'État, il n'y a rien. Alors, la conséquence, c'est quand quelqu'un finit avec des diplômes universitaires, il ne se sent pas pris au sérieux par les autorités du pays. Mm-hmm. Donc, il peut rentrer au pays avec l'espoir de travailler, mais sur place, il n'est pas encadré. On n'exploite pas l'expertise de tous ces gens-là. Et la conséquence, c'est qu'il y en a qui arrivent ici, qui se jettent. Alors, quand ils ne savent rien faire, ils doivent créer des circuits d'auto-subsistance. Et il y a un problème qui est là devant nous, c'est à l'État de récupérer toute cette potentialité. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. On a une population qui est à la recherche de l'avenir, mais nous avons un État qui ne sait pas encadrer sa population. Ça devient vraiment un défi. Et quand on suit qu'il y a l'ordre ici, l'ordre là-bas. Moi, j'interviens de l'Allemagne. Donc, je peux dire au vice-premier ministre que ce que Dieu a pu se vérifier peut-être par rapport à certains pays, mais pas par rapport à tous les pays de l'Europe.
Voilà, merci.
En Autriche, il ne le dira pas qu'il y a vraiment de l'ordre là-bas parce que nous n'avons ni ambassade, ni consulat organisé, ni quoi. Donc, le problème de l'organisation diplomatique se pose encore. Nous avons besoin. On nous affecte des hommes qui ont une vision nationaliste, des hommes qui peuvent travailler pour le pays. Et on n'a pas besoin qu'on nous envoie des gens qui veulent vraiment travailler seulement pour leur propre gloriel.
Merci, merci beaucoup, Franck, de nous avoir appelé des Viennes. Vous pensez qu'il y a un problème d'encadrement? Il faut suivre les jeunes qui sont partis pour étudier à l'étranger, les rendre visite régulièrement, leur présenter des opportunités. Comme ça, ça peut les stimuler à rentrer au pays plutôt qu'ils se sentent abandonnés. Et vous souhaitez même que là où vous êtes en Autriche, qu'on puisse y avoir aussi une représentation, parce que vous vous rendez souvent en Allemagne. Merci beaucoup, Franck. On va terminer avec Géry, qui est à Bandundu, avant d'accorder la parole à notre invité. Géry, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Maxel.
C'est Pierrot. Géry, vous êtes dans le Bandundu. Vous avez suivi la proposition d'Adrien, qui est à Kananga. Nous sommes partis de l'extérieur, là, avec Marcel à Paris et Franck à Vienne. Nous revenons ici au pays. Qu'est-ce que vous proposez pour un meilleur encadrement des Congolais qui sont à l'étranger?
Bon, je ne sais pas, quand on fait d'abord la part des choses, bon, ce que j'ai constaté pour nous, c'est vraiment pitoyable. Quand j'ai dit ceci, pourquoi? Quand on suit ici dans nos télés, bientôt j'ai suivi là, c'est les infos dans nos télés, il y a des Congolais, donc pas même les Congolais qui vivent là, même à l'Inde, c'est qu'on a tabassé là, d'autres Congolais qui vivent en Europe, ici, alors on les a refoulés, on les a quittés. Mais si vous suivez les témoignages de tous ces Congolais là, vraiment, ça nous fait vraiment défaut, je ne sais pas. Qu'est-ce font nos ambassadeurs là dans ces pays, hein? Les autres, les étrangers, quand ils viennent ici dans notre pays, ça ne pose même pas de problème. Je ne sais pas, leur visa qu'ils viennent ici, c'est bien rempli. Nos visas, on n'a pas bien rempli cela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour revenir ici sans problème? Nous, quand nous partons là, ça pose toujours des problèmes. On prend même l'exemple de nos Congolais qui vivent là en Angola. Donc c'est pitoyable, vous, tout le temps vous allez suivre qu'il y a des Congolais qui vivent là en Angola, on les a chassés, d'autres qui sont partis, on les a confisqués tous les biens, tout le temps, vous suivez à l'étranger là à l'Inde, on a arrêté des Congolais, ceux qui vivent ici au Congo, hier ils n'ont pas vendu, ceci c'est là, donc je ne sais pas, il y a un problème là du gouvernement, donc notre gouvernement fait la part des choses pour améliorer la situation de nos frères qui souffrent là à l'étranger.
Merci beaucoup, Géry. Voilà, merci beaucoup, Géry. Vous souhaitez que les mesures soient prises au niveau du pouvoir public. Vous avez posé la question de savoir si les gens qui sont expulsés plutôt de différents pays, ils ont séjourné dans ces pays d'une manière régulière ou irrégulière. On pourra avoir des réponses avec le vice-ministre des Affaires étrangères. On écoute le dernier auditeur de cette partie, c'est Charles qui est à Likasi. Bonjour, Charles.
Bonjour, M. Pierrot.
Vous êtes avec nous. Quelle est votre proposition, Charles?
Oui, merci. Je n'ai pas de proposition spéciale à donner au gouvernement, et notamment au vice-ministre qui est avec vous au studio. Mais ce que je voulais demander, c'est que les pays voisins, ou plutôt les pays là où nos compatriotes vivent, doivent avoir un peu certains égards vis-à-vis de nos compatriotes qui sont là-bas, vis-à-vis de nos enfants qui sont chez eux, parce que nous respectons tous les étrangers qui sont du Congo et nous avons toujours eu cette cette réputation d'être un pays hospitalier. Hein. Nous espérons que les autres peuvent aussi afficher cette attitude vis-à-vis de nos enfants qui sont à l'étranger. Mm-hmm. Notamment ce qui s'est passé en Inde, ce n'est pas bon. Mais par contre, ce que je pourrais demander, c'est que au niveau de nos services d'immigration, on devait un peu restreindre, hein, qu'il y ait une certaine rigueur pour la livraison, notamment des visas ou des passeports. Je pense qu'on pourrait plutôt favoriser, encourager les enfants qui sortent du pays pour les études ou pour une formation, une spécialisation quelconque dans tel ou tel domaine, plutôt que livrer des passeports ou des visas à n'importe quelle catégorie de Congolais qui sortent, parce que ça fait quand même honte lorsqu'on doit expulser des Congolais de l'Angola ou je ne sais pas de quel autre pays. On a l'impression que dans tous les autres pays, on croit que les Congolais sont comme ça. Bon, tous ceux qui viennent ne sont pas, ils n'ont pas de documents, ils viennent comme des clandestins. Alors qu'il y en a qui vont là-bas pour des raisons bien spécifiques, les études et la formation, ainsi de suite. Je crois que on doit plutôt accorder une certaine rigueur, hein, afficher une certaine rigueur au niveau du service d'immigration pour laisser uniquement les enfants ou les gens, les Congolais qui sortent du pays, pour des raisons bien spécifiques. Les Congolais doivent apprendre à rester chez eux, dans un autre pays. Il y a beaucoup de place pour tout le monde. On a besoin des apports de tout le monde pour construire ce pays. Moi, je crois que c'est un peu ça, ma contribution.
Merci beaucoup, Charles. Vous avez souhaité que les pays qui ont accueilli et qui accueilleront encore le Congolais puissent aussi le traiter avec beaucoup d'égard, comme on le fait ici, de manière mutuelle. Mais vous souhaitez aussi qu'on ait des buts précis, hein, dans l'octroi des visas, dans des sorties, que tout soit contrôlé, que les gens puissent voyager pour des buts spécifiques, plutôt qu'y avoir des foules de gens qui souhaiteraient bien sûr aller à l'extérieur et qui risquent d'être expulsés et mis dans un même sac, et pourtant il y en a aussi qui séjournent à l'étranger pour des raisons très très spécifiques. Merci beaucoup. Je rappelle notre numéro, c'est 081 890 43 39.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Ntunda Yakasende, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs, 5 auditeurs, hein, ceux qui sont intervenus du pays et de l'extérieur. Je crois que vous avez noté ensemble avec moi. Quelle peut être votre réaction sur tout ce qui a été dit? Il y en a qui ont posé des questions, mais aussi qui ont présenté des pistes et des solutions.
Oui, je remercie d'abord tous ces auditeurs, tous ces citoyens, ces compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays, avec lesquels nous avons les mêmes pensées pour l'avenir de notre pays. Mmh. Et je voudrais à cette occasion leur demander, en tout cas pour le moment, qu'ils puissent avoir confiance aux institutions du pays, au gouvernement de leur pays, au président de la République, parce que les choses sont en train de changer. Je crois que même s'ils sont loin de la patrie, ils apprennent que le changement est effectif en République démocratique du Congo, à tout point de vue. Et lorsque le président de la République, Joseph Kabila, a lancé l'idée de la révolution de la modernité, comme j'ai eu à le dire encore avant-hier, je crois, cette modernité ne doit pas seulement s'exprimer en termes des infrastructures, de construction des routes, des ponts. L'idée du chef de l'État, c'est le changement de la République démocratique du Congo dans tous les domaines, y compris dans le domaine, disons, du séjour, disons, si je dois le dire très bien, y compris dans la protection des Congolais partout où ils se trouvent, et particulièrement à l'étranger. Je dois dire qu'il y a eu des abus peut-être par le passé. Il y a eu peut-être absence d'action significative pour protéger les Congolais qui étaient en détresse à l'étranger. Bon, nous assumons, parce qu'il y a le principe de la continuité des affaires de l'État, nous ne pouvons pas dire ce n'était pas notre époque, ça n'a rien à voir avec nous. En tant qu'hommes d'État, nous nous assumons. Nous disons que les choses n'étaient peut-être pas bien faites avant. Nous les acceptons, nous assumons. Mais la réponse à cette défaillance, c'est quoi? La réponse, c'est les changements que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui. Nous sommes en train d'apporter des changements véritablement significatifs. Et là, je vous ai dit, ils ont parlé des ambassades. Au début, je vous ai dit comment les choses sont arrangées aujourd'hui au niveau des ambassades. Si on pense qu'il faut qu'il y ait un espace culturel dans les ambassades, eh bien, c'est ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui. C'est ce qui est en train. Il fallait d'abord les moyens. Les moyens, nous sommes en train de les doter aux ambassades. Bon, les moyens humains, c'est vrai. J'ai suivi un auditeur, je ne sais pas si c'était...
C'est Franck qui a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont nommés, qui arrivent juste pour gagner de l'argent, mais pas pour travailler pour l'intérêt
qui n'ont peut-être pas de qualité. Mm-hmm. Mais nous sommes maintenant dans la phase de redéploiement de la diplomatie congolaise. Pourquoi est-ce que le gouvernement Matata, aujourd'hui, on ne pouvait pas commencer par cette action? Parce qu'il y a déjà les diplomates qui sont à l'extérieur, pour la plupart, tel qu'il a dit, qui devraient normalement déjà rentrer au pays. Avant que ces gens ne rentrent, selon les règles diplomatiques, on ne peut pas en affecter d'autres. Mmh. Et le processus de leur retour est déjà en cours. Hein, au niveau du ministère du budget, au niveau des entreprises de transport qui doivent convoyer ces diplomates jusqu'à Kinshasa. Donc, cette action est en cours. Les diplomates qui étaient là avant, qui ne répondent peut-être plus, n'est-ce pas, au contexte moderne, actuel, ils doivent revenir au pays, renforcer leurs propres capacités, avant peut-être de faire autre chose ou même d'être redéployés plus tard. Donc ça, c'est une action qui est en cours. Et l'ami qui s'est inquiété en disant, ailleurs, pour d'autres ambassades, il y a des fêtes, il y a ceci, qu'il se tranquillise. Eh bien, tous les Congolais qui sont à l'étranger vont voir que ces bonnes habitudes vont revenir, et qu'à l'occasion de certaines fêtes nationales, telles que l'indépendance, peut-être pas, maintenant nous sommes en juin à quelques jours, peut-être pas cette année, mais en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour que les Congolais, en arrivant dans nos ambassades, ils se sentent déjà chez eux. C'est ainsi qu'il dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a la direction des Congolais à Kinshasa, alors que ce rôle devait être joué par les ambassades.
Effectivement, par les ambassades.
Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. La direction des Congolais à l'étranger ici, c'est une structure de coordination qui se trouve au sein du ministère. Mais les ambassades, les missions diplomatiques à l'extérieur, ils ont leur rôle à jouer à l'extérieur. Hein, et par conséquent, la direction ici à Kinshasa ne se substitue pas aux missions diplomatiques qui ont leur rôle véritable à jouer dans tous ces pays où se trouvent les Congolais. Il y a un auditeur qui a dit une idée excellente en disant il faut améliorer le social des Congolais
pour les stimuler à rester chez eux et puis à rester de pouvoir à l'extérieur. Oui.
Mais c'est ça qui est en train de se faire. Comment est-ce que le social des Congolais devait être amélioré? Pour améliorer les sociales des Congolais, il faut réunir les moyens. Il faut avoir les moyens. Le pays doit avoir les moyens, n'est-ce pas, pour se déployer à travers plusieurs actions à caractère social et apporter des solutions idoines aux Congolais dans divers secteurs de la santé, enseignement, et ainsi de suite. Uh-huh. Et les moyens aujourd'hui sont perceptibles parce qu'il fallait d'abord maîtriser l'économie du pays. Et aujourd'hui, les grands paramètres économiques sont maîtrisés, que ce soit la croissance. Nous sommes au-delà de la moyenne des pays africains, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Vous savez que nous avons terminé l'année passée avec une croissance de plus de 7%. L'année 2013, nous allons terminer avec une croissance de plus de 8%. Et nous sommes en train d'aller vers 2015, nécessairement avec une croissance qui sera de deux chiffres. Voyez les Congolais qui sont à l'étranger, quand ils viennent ici aujourd'hui, qu'ils regardent la parité franc-congolais avec les devises étrangères. Mm-hmm. Aujourd'hui, la monnaie est stable. N'importe qui, même les expatriés qui sont chez nous aujourd'hui, ils peuvent conserver leur richesse en monnaie congolaise. Et c'est ça l'indice le plus important. L'inflation. Vous savez aujourd'hui que quand vous allez dans un magasin, vous voyez le prix d'un costume tel que vous êtes habillé. Vous revenez une année après, vous allez trouver ce costume au même prix. C'est la stabilité monétaire, c'est la stabilité des paramètres au niveau de l'économie. Et c'est ça qui permet maintenant que nous puissions transformer le niveau, disons, le niveau social des Congolais. Regardez les routes.
Et les aider à ne plus.
Regardez les routes. Voilà. Aujourd'hui, les routes sont en train d'être transformées. Quand vous arrivez à Kinshasa aujourd'hui, si vous n'y avez pas été il y a 5 ans, vous avez l'impression que vous avez atterri dans un pays, dans une ville d'Amérique du Nord. Les routes sont en train d'être transformées. À partir du 30 juin, on inaugure le trafic urbain avec des bus neufs à Kinshasa et ensuite ça progresse vers l'intérieur. Tous les hôpitaux du Congo aujourd'hui, on a commencé avec une tranche des 100 hôpitaux qui seront complètement équipés avec du matériel neuf. Ça, c'est sur le plan de la santé. Bon, il y a... En fait, les exemples font les gens.
Effectivement,
c'est dans
voilà.
tous les niveaux. Alors, cela, c'est comme ça que je chute en disant que il y a notre ami Charles qui est à Likasi qui a dit que les Congolais doivent apprendre à rester chez eux. Ça, c'est Charles qui l'a dit à partir de Likasi. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Et moi, en tant que responsable, membre du gouvernement, moi, j'ai dit que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'apporter des prétextes aux Congolais pour qu'ils ne puissent plus aller se balader de n'importe quelle manière à l'extérieur. Parce que tout ici est en train d'être fait, y compris la création des emplois. Y compris la création des emplois. Parce que tout ce qui est en train d'être créé aujourd'hui, c'est pour favoriser la création des emplois.
Mais pour revenir rapidement, avant d'écouter le deuxième groupe d'auditeurs, il y a un autre ami, Adrien de Kananga, qui lui s'inquiétait par rapport à la réaction au niveau du pouvoir public quand il s'agit par exemple des expulsions. On a vu vraiment la réaction du gouvernement pour la situation qui s'est déroulée en Inde, mais il souhaiterait aussi que chaque fois qu'on apprend que des Congolais ont été victimes d'une violence ou soit d'une expulsion à l'extérieur, qu'on voie le pouvoir public en avance, qu'on sente vraiment qu'il défend leurs intérêts. C'est ce qu'il a dit. On nous a été expulsés, les gens viennent juste prendre nos noms, mais on ne sent pas l'engagement du pouvoir public pour nous protéger. Quand bien même il faut préciser que beaucoup de gens, tous ne sont pas à l'extérieur d'une manière régulière, bien sûr.
Une très bonne réaction de sa part. Vous avez dit qu'il est à Kananga.
Il est à Kananga, oui.
Bon, une très très bonne réaction de la part de notre ami qui est à Kananga. Effectivement, vous-même, vous venez de le dire en disant que nous venons de vivre... comment le gouvernement s'est comporté par rapport à la situation de l'Inde. Bon, très bien, merci d'abord pour cette appréciation. Mais je voudrais dire aussi que, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, qu'il y a des situations qui sont passées il y a quelques temps. Bon, on ne va pas revenir en arrière.
Oui.
On ne va pas revenir en arrière, mais moi, en tant qu'homme d'État, je vous dis tout simplement que j'assume toutes ces défaillances du passé. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. J'assume et j'accepte tout ce qui n'a pas été fait. Mais j'ai dit que les choses ont changé. Aujourd'hui, aucun Congolais, qu'il soit seul, qu'il soit en groupe, ne sera abandonné. Vous avez vu en Libye, il y a eu, on a tenté d'attaquer l'ambassade de la France là-bas. Eh bien, le ministre Fabius s'est rendu en Libye pour aller constater les choses. Autant, aujourd'hui, nos étudiants congolais ont été arrêtés. Et même s'ils sont déjà libérés, eh bien, il y aura une mission officielle qui va se rendre dès ce week-end en Inde, à New Delhi, pour faire le point sur cette situation, pour prévenir, pour que cela n'arrive pas.
Voilà.
Et donc, ce sera généralisé, il n'y aura plus de traitement barbare contre les Congolais et que le gouvernement congolais se taise. On ne va plus se taire. On va protéger les Congolais, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, qu'ils soient étudiants, partout où ils se trouvent aujourd'hui. Et nous allons appliquer la règle de la réciprocité. Vous accueillez les Congolais convenablement, comme il faut. De la même manière, nous allons accueillir votre communauté comme il faut. Notre pays est hospitalier, c'est vrai. Mais les Congolais ne sont pas naïfs. Cette naïveté, nous allons la corriger, la substituer par l'objectivité et la réciprocité.
Voilà. Thomas, vous êtes à Kindu, Jado est à Lubero, Richard ici à Kinshasa. On vous accorde la parole 081-890-4339.
Parole aux auditeurs.
Thomas, vous êtes à Kindu, dans la province du Maniema. On vous salue. Bonjour Thomas.
Bonjour, monsieur Piton. Bonjour également, vice-ministre.
On vous écoute, Thomas.
Oui, merci beaucoup. D'abord, j'encourage les efforts qui sont entrepris par notre gouvernement, parce que cela témoigne à l'évidence que les Congolais, même s'ils sont éloignés, mais cela signifie que nous sommes des cœurs avec eux, et notre diplomatie prouve en quoi il est quand même capable d'affronter les autres nations. Mais j'aurais souhaité faire des propositions par rapport aux idées que les amis ont déjà avancées. Au fait, M. Pierrot, vous êtes sans ignorer qu'au Congo, nous avons beaucoup d'universités, beaucoup d'études supérieures, mais nous avons peu d'infrastructures universitaires. Et ce qui pousse les patriotes congolais d'aller étudier à l'étranger, parce que c'est là où ils sont en train, n'est-ce pas, de mettre la relation entre la théorie apprise et la pratique. Car chez nous au Congo, nous avons seulement trop de théories, mais moins de pratiques. Et même, pour aller très loin, un licencié qui vient de Paris, hein, de Bruxelles, a plus de chances d'être embauché qu'un licencié, par exemple, pour ne pas quand même être beaucoup plus... qu'est-ce que je veux dire là? Par exemple, par rapport à un licencié de Kindu, ou soit un licencié de Kalima, s'il faut dire ça. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'un étudiant qui étudie ailleurs, en Europe, a eu beaucoup de matières, un enseignement de qualité qu'un étudiant qui étudie au Congo. Et cela pousse nos amis à aller vraiment étudier ailleurs. Mais ce que je vais recommander à notre gouvernement, c'est d'avoir, n'est-ce pas, l'esprit de nous faire beaucoup d'infrastructures qui poussera, n'est-ce pas, les Congolais de rester dans les pays et d'évoluer dans les pays et de travailler dans les pays.
Merci, Thomas.
La deuxième proposition, pour finir, M. Pierrot,
oui,
c'est que nos Congolais doivent savoir que à Rome comme les Romains, tout comme, je veux dire, en Inde comme les Indiens, ils doivent savoir les missions pour lesquelles ils sont en Inde et non pas s'ingérer dans les affaires nationales des autres pays. D'où je les invite à prendre au sérieux leurs objectifs assignés au niveau de l'Inde. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Thomas. Vous avez recommandé la création des universités, institutions d'enseignement supérieur avec toutes les infrastructures si possible qui puissent permettre aux Congolais d'étudier sur place plutôt qu'aller à l'extérieur. Et vous avez, ça c'est un message adressé à nos compatriotes qui sont en Inde et nous suivent, tout comme les autres qui nous suivent à travers le monde, qu'ils puissent s'attacher à l'objectif pour lequel ils se retrouvent dans un pays étranger plutôt qu'ils se mêler à d'autres choses. Merci beaucoup, Thomas. Jadot, vous êtes à Lubero. C'est dans la face du Nord qui vous... Bonjour, Jadot.
Bonjour, Jérôme Ngembo. Bonjour, le vice-ministre des Affaires étrangères. Bonjour, tous les auditeurs de la radio Capi. Je suis Jadot de Lubero à Masereka, c'est un territoire de Lubero. En fait, compte tenu du sujet du jour, M. Jérôme Ngembo, il faut d'abord appeler au vice-ministre qu'on doit cesser de distraire l'opinion en disant que le Congo n'a pas assez de moyens économiques. Le vrai problème, c'est que nous ne sommes pas capables de contrôler au moins les entrants agricoles de notre pays. Comment comprendre qu'aujourd'hui le café du Congo est en train d'être déclaré au nom de l'Ouganda pour être accepté sur le marché commun? Alors, nous avons plus des importations que des exportations qui affluent la monnaie nationale. Comment comprendre que la cachetérite du Congo est en train d'être déclaré au nom du Rwanda? Comment nous pouvons avoir assez de moyens économiques? Alors dire que le pays actuellement n'a pas assez de moyens économiques pour encadrer les ambassades et tout comme ça, je pense que c'est un faux fuyard. Il devait aussi, on doit tromper, on doit cesser de dire stabilité économique. Voyez-vous, avec la dollarisation, est-ce que les Congolais ont confiance à leur monnaie nationale? Comment la monnaie a trois fonctions principales, la fonction de banque, de transaction et commerciale. Mais aujourd'hui, les Congolais, pour faire les affaires, ils préfèrent les faire en dollars. Alors, dire qu'il y a stabilité, il y a ce qu'on appelle la valeur réelle et la valeur nominale. Bien entendu, nous sommes dans la valeur nominale, mais la valeur réelle, le franc congolais ne produit rien dans le cadre du panier de la ménagère. Alors, continuer toujours à tromper l'opinion de cette façon-là, nous n'allons pas aider les Congolais à avancer. Il y a ceci. Comment comprendre que les avancées significatives que nous venions de connaître depuis 2003 à 2008 à la coopération régionale, il y a eu quelqu'un qui s'est battu pour essayer de redonner l'image de la République. Lorsqu'il a été aux affaires étrangères, il s'est battu pour redonner le Congo l'image dans les chiquets internationaux. Voyez-vous, les Congolais qui étaient à la diaspora étaient bel et bien respectés. Mais lorsqu'il a chuté, il y a eu des ambassades qui ont été fermées à Chine, à Japon, tout comme ça. Tout simplement parce que lui, au moins, avait appris à gérer bien les corps diplomatiques. Un moment, il allait en mission, et lorsque lui n'arrivait pas à consommer tout ce qu'on lui a réservé pour aller en mission, il arrivait à remettre dans la tête publique pour supporter les ambassades. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, avec des ambassades, d'abord, qui sont, moi, j'ai à Ouganda. Si tu peux voir, La maison dans la
oui,
pièce,
oui, Jadot, je crois bien qu'on est bousculé par le temps. S'il vous plaît, Jadot, on est bousculé par le temps parce qu'il nous reste 2 minutes pour les auditeurs. Là, ça va être difficile. Mais pour revenir, vous avez attaqué plusieurs choses à la fois. Vous avez répondu sur ce que le ministre a dit par rapport à la stabilité économique. Vous avez dit qu'on ne dise pas que le Congo n'a pas de moyens. Ce n'est pas ce que le vice-ministre a dit. Mais au contraire, il a dit qu'on est en train de mettre des moyens pour permettre aux gens de ne pas aller à l'extérieur. Vous êtes revenu sur la gestion au niveau du ministère des Affaires étrangères. On ne saura pas faire le débat autour de individus, c'est très compliqué. Mais ce que je peux retenir dans votre propos, votre souci, c'est qu'il y ait plus de stabilité. Et quand on aura plus de stabilité, ça va permettre à ce qu'il y ait des richesses et que les Congolais ne pourront plus aller à l'extérieur. Voilà un peu ce qu'on peut retenir parce qu'il y a encore 2 auditeurs en ligne. Docteur Richard à Kinshasa, ingénieur Mangoy qui est à Kinshasa, qui sera le dernier de cette émission. Rapidement, docteur Richard, parce que là, on n'a que 2 minutes à chacun pour permettre à notre invité de pouvoir conclure. Hein. On vous écoute, docteur Richard.
Bonjour Pierrot, bonjour son excellence monsieur le vice-ministre. Félicitations au vice-ministre parce qu'il a dit à la naïveté des Congolais, nous allons remplacer la réciprocité. Coup de chapeau. Alors, je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'est-ce qu'ils font faire là-bas. Ils se baladent pourquoi? Vous savez que le Japon s'est développé à partir de ceux qui sont sortis et qui sont rentrés avec le savoir nouveau. Les Japonais, le père de leur développement disait, nous sommes une ruche sans miel. Il faut aller chercher les sucres des plantes ailleurs et remplir le miel. Vous savez que nos amis chinois qui sont devenus deuxième puissance du monde, parce que ils ont été très malins, ils ont acheté des appareils qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais roulé, ils ont tout dépiécé, démonté et ils ont tout copié. Alors, nous, nos enfants sortent pourquoi? Regardez un peu le bilan des universités qu'on a publiées d'Afrique. Sur 100 universités, c'était 0 sur 100. Est-ce qu'ils peuvent encore rester ici? S'ils doivent rester, c'est pour avoir quoi? Alors, maintenant, parce qu'on dit tout est bonheur ici, les gens sortent en laissant le bonheur, mais ce n'est pas vrai. Au Katanga, là où les gens marchent sur le coltan, l'or, les diamants, etc., l'uranium, mais on a célébré il n'y a pas longtemps la malnutrition de la population qui est là-bas. On a vu le gouverneur aller acheter à manger ailleurs. Vous savez que il y a moins d'une semaine, on a parlé des médicaments qui tuent. On a
oui, docteur Richard, si vous pouvez terminer en 10 secondes. En 10 secondes, s'il vous plaît, oui.
Excusez-moi. Alors,
rapidement, en 10 secondes, parce qu'il y a aussi un ingénieur Mangoye qui doit intervenir.
Vous savez que
rapidement.
Le Sénégal fait la dialyse gratuitement. Ici, chez nous, ça coûte combien pour l'université et un galiment. Donc, il ne faut pas commencer à nous montrer le boulevard comme le changement social. C'est ça. C'est ça,
oui, docteur Richard, si on peut retenir, voilà, rapidement, là, on ne saura pas vous laisser aller plus loin parce qu'on a 30 secondes accordées à l'ingénieur Mangoyo. Vous avez d'abord encouragé le fait que les gens puissent aller ailleurs pour copier, ça peut être les technologies qu'on peut ramener pour développer les pays, c'est en fait, mais vous insistez aussi sur le social qu'il faut plus l'améliorer, si je peux retenir ainsi. Ingénieur Mangoyo, dommage qu'on vous accorde ne fût-ce que 30 secondes. Si vous pouvez résumer en un mot ce que vous aviez besoin de dire, parce que là, on va terminer cette émission dans 1 minute.
Merci Pierrot, c'est dommage. Bon, écoutez, je crois que le docteur Richard a presque tout dit. Je voudrais seulement ajouter ceci que pour éviter à notre pays d'être toujours, de paraître comme le dindon de la farce, toujours la risée du monde, moi je voudrais un peu faire une proposition à notre invité.
Rapidement, un mot.
Oui, je disais ceci, il faudra quand même que... nous aussi, au niveau de nos services d'immigration, lorsque chaque jour, il faut que nos services travaillent pour que nous aussi, s'il y a des étrangers qui sont ici en situation irrégulière, qu'on puisse les voir tout le temps aussi, quitter notre pays,
voilà.
Pour que nous fassions la réciprocité, pour qu'on nous respecte à travers le monde.
Merci beaucoup, merci beaucoup, ingénieur Mangoye. Dommage qu'on ne saura pas aller plus loin. Nous revenons à vous, notre invité, monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères. Vraiment, on a presque tout dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot? Parce que là, il n'y a que 30 secondes qui nous séparent de la fin de cette émission. En un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Je voudrais dire aux Congolais, aux compatriotes qui sont à l'étranger, que désormais, ils ne devraient plus se sentir abandonnés. Le gouvernement a une stratégie maintenant pour protéger, gérer et défendre les Congolais partout où ils sont. Que nos compatriotes apprennent donc dès à présent à avoir confiance à leur gouvernement, au chef de l'État, au Premier ministre Matata, parce que toutes les autorités du pays aujourd'hui ont conscience que les Congolais, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'intérieur du pays, mais les Congolais, c'est également ceux qui sont à l'extérieur, et que ces derniers cessent d'être pessimistes. Merci. Quand le pays change, qu'ils reconnaissent que le pays change. Et nous créons les conditions pour ça, pour les accueillir à tout moment.
Merci, nous vous disons merci, monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, maître Ntunda Yakasende, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à tous les auditeurs, à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. On va se retrouver demain autour de l'arrêté pris par le ministre des Mines, hein, l'arrêté qui porte la sous-traitance des activités minières directes, connexes ou annexes des entreprises minières. L'impact de cet arrêté sur la lutte contre la pauvreté. On se retrouve demain à 11h03. Au revoir.